Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que la laïcité ? Les conflits d'interprétation n'ont cessé d'être vifs sur la réponse à cette question, sur le sens de la laïcité. Je voudrais ici évoquer les enjeux et les débats qui sous-tendent ces sens différents, débats qui ont porté et portent encore, très principalement, je crois, sur la question de la séparation. Séparation de l'Église et de l'État, séparation du public et du privé, séparation au pluriel, donc, qui ferait de la France, parmi les pays européens, le seul pays vraiment laïque. Bon. Il est vrai que les termes laïcité, laïcisation sont intraduisibles en anglais, la langue internationale d'aujourd'hui. Si j'évoque cette question de la traduction, c'est que je n'aborderai pas seulement la question de la laïcité en France, mais aussi dans l'espace européen. Mais donc, tout d'abord, et ce sera mon premier point, la laïcité dans la durée en France. Et je soulignerai que deux conceptions différentes ont marqué l'histoire de la laïcité française. Une conception de laïcisation combat, l'autre conception de séparation-neutralité. Institutionnellement parlant, c'est cette dernière, la séparation-neutralité, qui s'est imposée avec l'institution d'un régime juridico-politique qu'on peut dire libéral. Sur le terrain idéologique, la conception d'une laïcité combat est restée longtemps prévalente. Alors, quelques mots d'emblée pour dresser la perspective d'ensemble. Le terme laïcité s'invente au début des années 1870, mais la laïcité française résulte d'une dynamique qui s'origine dans la Révolution et le nouveau pouvoir politique fondé non plus en Dieu, mais fondé dans la nation. Un antagonisme radical apparaîtra à ce moment de la Révolution entre la Révolution et l'Église catholique et commença alors, vous le savez, ce qui a pu être appelé la guerre des deux Frances. Alors, les épisodes de cette guerre furent nombreux, avec, après la Révolution, pour le propos qui nous intéresse, trois grands moments de laïcisation. Le début du XIXe siècle, avec Napoléon Bonaparte. Ensuite, l'établissement de la laïcité scolaire, dans les années 1880. Et, en 1905, la séparation des Églises et de l'État. Cette séparation des Églises et de l'État marque la défaite définitive du camp clérical. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la victoire du camp laïque a été rendue possible parce que dans tous les épisodes décisifs, ne prévalurent pas les solutions les plus radicales. Certes, à chaque fois, les mesures prises étaient toujours de dures attaques contre les positions catholiques, mais elles étaient néanmoins des positions de compromis. Et c'est ainsi que la laïcité devint constitutionnelle en 1946. Bon, en vérité, il faut dire, pour être honnête, que tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale a aussi fortement contribué à cette laïcité donc, qui devient constitutionnelle après la guerre. Et la Constitution de 1958, réaffirmant que la France est une république laïque, ajoute, elle respecte toutes les croyances. De fait, constitutionnellement parlant, la séparation-neutralité de l'État s'est imposée. Alors, je reprends rapidement, bien sûr, ces divers moments. Donc, je le disais, c'est au moment de la Révolution que se noue la guerre des deux Frances. Non pas dès 1789, mais progressivement à partir de 1790. La Révolution a d'emblée institué, contre l'évidence très largement partagé au moment de la Révolution du catholicisme religion d'État, la Révolution a donc institué la liberté religieuse avec droits égaux pour tous. Dès 1789 pour les protestants, en 1791 pour les juifs. Néanmoins, l'idée d'une religion catholique, partie constitutive de l'ordre nouveau révolutionnaire, perdura un certain temps. Le basculement s'est produit avec la constitution du clergé. Non pas à proprement parler à cause du texte de la Constitution civile, car bien que ce texte bouleversa toute l'organisation de l'Église de France, il n'était pas complètement inacceptable pour cette Église, habituée qu'elle était déjà depuis longtemps à être largement soumise au pouvoir politique. Mais pour l'Église, la réforme devait être approuvée par une autorité spirituelle, un concile national ou le pape. Ce ne fut pas le cas. Lorsque les prêtres furent sommés de prêter serment, le schisme commença, inséparablement religieux et politique.